Donc, on va commencer notre 51e leçon dans notre série « Le péché, les 10 commandements, la grâce ». Ce matin, on va regarder le calvinisme et le néo-évangélisme. Alors, on a entrepris, au cours de nos dernières leçons, de situer le calvinisme par rapport aux autres grands mouvements religieux de notre époque. Le fondamentalisme chrétien, le néo-évangélisme, ce qu'on regarde ce matin, les charismatiques, qu'on va regarder la semaine prochaine, et les pentecôtistes. Et on va terminer par l'écuménisme en général. C'est quoi? Comment ça s'articule? C'est quoi les leaders là-dedans? C'est quoi leurs principales idées? Ça nous mène où? Donc, c'est ce qu'on va regarder. Alors, on va étudier aujourd'hui brièvement c'est quoi le néo-évangélisme. Et nous verrons leur histoire, leurs caractéristiques, leurs croyances et leurs erreurs. Bien entendu, une leçon de 30, 35, 40 minutes sur un gros sujet comme ça. Je suis bien conscient qu'on survole les grandes lignes, on est loin d'aller en profondeur. Alors, nous devrons ensuite examiner comment les calvinistes doivent se situer par rapport à eux. Est-ce qu'on doit collaborer avec eux? Est-ce qu'on doit les dénoncer? Ou est-ce qu'on doit se séparer? Ou une combinaison de ces choix-là? Alors, 2 Timothée, chapitre 3, versets 1 à 5, « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force, éloigne-toi de ces hommes-là. » Je trouve que c'est un passage qui résume bien un petit peu le néo-évangélisme. Alors, on va regarder le premier point qu'on va regarder, les néo-évangéliques, qui sont-ils? Alors, bien sûr, j'avais un paquet de notes que j'avais pris dans un cours d'histoire, mais j'ai trouvé un article qui a été écrit par un pasteur et un théologien réformé baptiste qui est connu dans notre propre milieu. On a même des livres de lui ici, là, qui s'appelle Stuart Olliott. Alors lui, il a fait un petit article sur le site Sentinelle de Néhémie sur le mouvement néo-évangélique. Et je le trouvais tellement bien fait que je n'ai pas voulu réinventer la roue, comme on dit. Alors c'est en... Lui, il dit... alors là, on le cite mot pour mot. C'est en 1948... que le docteur Harold Hockinga de Boston introduisit pour la première fois dans le vocabulaire chrétien l'expression néo-évangélisme. Les conférences qu'il donna cette année-là au séminaire théologique Fuller en Californie annoncèrent l'apparition d'un nouveau mouvement dont le but déclaré était de préserver ce qu'il y avait de meilleur chez les évangéliques tout en rejetant ses pires tares. Depuis lors, ce mouvement est devenu une force chrétienne importante, non seulement aux États-Unis, mais en Europe également. Ce mouvement prétend accepter l'autorité de la Bible ainsi que l'ensemble du système doctrinal évangélique. Mais il refuse de s'identifier à des aspects de la pensée évangélique traditionnelle, à ses yeux peu satisfaisants, tels son désintérêt pour une saine érudition, son opposition aux affiliations dénominationnelles. Alors ici, alors le mouvement en général sont un petit peu contre les dénominations, mais on pourrait dire du pour et du contre là-dedans. Là. Alors son identification aussi avec le dispensationalisme, on peut dire qu'en général les néo-évangéliques sont dispensationalistes. Son ignorance des rapports entre foi chrétienne, culture et vie sociale. Et la limitation de l'Évangile uniquement à l'expérience religieuse personnelle. Un aspect particulier du néo-évangélisme est son désir de voir réexaminer les rapports entre la science et la Bible. Ici, on va voir que c'est pas trop long que ça dérape. Là, parce que quand tu veux réexaminer les rapports de la science et de la Bible, souvent, ce que tu fais, c'est que tu donnes préséance à la science sur les Écritures. Alors, un porte-parole éminent de ce mouvement fut Bernard Ramm, qui publia en 1955 un livre explosif sur ce thème. Critiquant autant ce qu'il appelait le pédantisme de l'hyper-orthodoxie, se manifestant dans une création par fait divin, que l'évolutionnisme théisme, Ram réinventa une nouvelle expression parlant d'une création progressive. Alors là, il rejette un peu le créationnisme et aussi, il essaie de prendre une position un petit peu entre les deux. Alors, au cours des millions d'années de l'histoire géologique, alors vois-tu, là, ils introduisent la question de millions d'années. Alors, au cours des millions d'années de l'histoire géologique, Dieu aurait, selon lui, par un commandement souverain, créé des formes de vie de plus en plus complexes. Ayant d'abord créé l'univers de rien, Dieu aurait transmis sa fonction créatrice au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit serait, pour ainsi dire, à l'intérieur même de la nature et connaissant le modèle divin, ferait en sorte que la nature donne graduellement vie à tout ce que Dieu avait l'intention de créer. L'homme tirerait ainsi son origine physique des formes de vie inférieures. D'autres protagonistes du néo-évangélisme, tels Edward J. Carnell, nomment cette théorie l'évolutionnisme du seuil. Il parle d'une race pré-adamique, formellement semblable à l'homme moderne, mais plus ancienne et de capacité inférieure. Alors, c'est pas nouveau, parce qu'on est en train d'étudier la Genèse, j'ai un petit peu parlé de ça, qui croyait qu'il y avait une race adamique avant Adam, et en tout cas. Alors, voici d'autres positions que s'attribue le néo-évangélisme en général. Ils disent respecter le calvinisme classique. Deuxièmement, le désir de voir l'Évangile influencer la société, l'éducation et la culture, mais cela sans référence explicite aux exigences précises de la loi de Dieu. Voyez-vous, ici, c'est vrai, vraiment ce qu'on appelle vouloir transformer la société par l'Évangile. Ce n'est pas nécessairement mauvais, mais ça dépend de quelle façon tu le fais. Alors, l'Évangile social, qu'on appelle l'Évangile social, ils ont beaucoup travaillé dans le sens de développer que c'est à nous de changer les problèmes du monde, la pauvreté, le chômage, tout ce que tu voudras, là. Alors, eux, ils veulent que les chrétiens s'engagent plus dans la transformation de la société. Troisièmement, un intérêt marqué pour l'éthique sociale. Quatrièmement, la recherche d'un dialogue oral et écrit avec des théologiens libéraux et néo-orthodoxes. Alors, quand tu commences, c'est pas que les chrétiens n'ont pas le droit de discuter ou de parler ou d'échanger avec les théologiens libéraux et néo-orthodoxes. Ça dépend de la place que tu leur donnes, puis ça dépend comment t'approches ton affaire. Alors, si la Bible n'a pas beaucoup de place et tu commences à discuter avec les libéraux puis les néo-orthodoxes, on va dire comme ce gars, t'es pas sorti du bois. Mais le débat le plus crucial provoqué par les néo-évangéliques concerne la question de l'autorité et de l'inhérence des Écritures. Ça, c'est d'une importance capitale. Autrement dit, est-ce que c'est Dieu qui te parle à travers les Écritures? L'inhérence, ça veut tout simplement dire est-ce que la Bible contient des erreurs ou non? Alors, ta réponse à ces deux questions-là va définitivement influencer ta marche chrétienne. Alors, les néo-évangéliques, sur la question de l'autorité et l'inhérence des Écritures, on croit qu'ils ont beaucoup des positions dangereuses. Après quelques premières réticences qui furent dissipées au début des années 70, l'ensemble du mouvement a adopté une distinction entre l'inspiration et l'inhérence des Écritures. Pour eux, ces deux notions ne se recouvraient plus. La Bible serait ainsi sans doute possible la parole de Dieu. Elle serait entièrement digne de confiance lorsqu'elle traite de questions d'ordre spirituel, mais ceci n'impliquerait aucunement qu'elle soit toujours parfaitement exacte, historiquement ou graphiquement. Ou quand tu commences à considérer, oui, elle contient des choses intéressantes du point de vue du salut et tout ça, mais dans la science, et là, il laisse vraiment l'idée que la Bible contient des erreurs ou contient des inexactitudes et qu'aujourd'hui, notre niveau avancé de science fait en sorte que, bon, on comprend plus. Là, tu t'embarques sur un terrain très, très, très glissant. Alors, il ne faudrait pas s'attendre à ce que la Bible soit rigoureusement vraie quand ses affirmations touchent au domaine scientifique. Selon cette position, Dieu nous aurait donné deux révélations de la vérité, chacune ayant une pleine autorité, une entière autonomie dans son domaine propre, la révélation de Dieu dans l'Écriture et la révélation de Dieu dans la nature. Voyez-vous, ils font une distinction. Oui, Dieu s'est révélé dans les Écritures, mais là, ils viennent mettre la science à peu près sur le même pied d'égalité. Alors, le théologien serait l'interprète établi par Dieu de la révélation scripturaire, tandis que le savant serait l'interprète également établi par Dieu de la révélation naturelle. Voyez-vous, il considère le scientifique quasiment comme un théologien, mais un théologien d'une autre nature, parce qu'on parle de révélation naturelle et de révélation scripturaire. Alors, chacun des interprètes aurait ses instruments propres, lui permettant de découvrir le sens véritable du livre particulier qu'il est appelé à étudier. Alors, le livre particulier, c'est la Bible, l'autre, c'est la nature par la science. Alors, ceci implique que quand la Bible nous parle de la création, elle nous indiquerait uniquement qui en est l'auteur et les raisons qui ont conduit Dieu à créer. Mais elle ne nous dit d'aucune manière comment l'univers fut créé. Alors, la valeur de l'Écriture ne se trouverait donc pas dans sa fidélité historique, ni dans sa cohérence avec les faits, mais dans sa capacité à déclencher des expériences spirituelles. De ce point de vue, il est possible de parler de la véracité révélée absolue de l'Écriture sans pour autant lui attribuer une précision factuelle et historique totale. C'est de cette façon que le néo-évangélisme prend ses distances avec la doctrine de l'Écriture inhérente. Mmh. Voyez-vous, depuis tantôt, on commence à nommer des choses, et quand on va plus loin dans chacune de ces choses-là, ça peut vraiment mener, faire déraper la foi. Alors, nous devons reconnaître que le néo-évangélisme n'est pas tant un mouvement organisé qu'un état d'esprit. Il s'agit d'un tempérament plutôt que d'une théologie, d'une orientation plutôt que d'un système théologiquement élaboré. Mais cet état d'esprit s'est aujourd'hui infiltré d'une manière si générale dans tous les milieux évangéliques que les chrétiens qui croient que la Bible ne contient aucune erreur se sentent obligés de sonner l'alarme. Le congrès de 1978 sur l'inhérence biblique, ainsi que celui de 1982 sur l'herméneutique biblique qui ont eu lieu tous deux à Chicago, furent organisés afin d'avertir le peuple chrétien du danger représenté par le néo-évangélisme. Alors, quand on regarde sur notre site web, on a adopté comme position la position de 1978 de Chicago. Ils ont écrit ce qu'eux considèrent ce que c'est l'inhérence et ils ont adopté cette position-là dans le but qu'il n'y ait d'autres églises qui disent « ben nous aussi, on croit la même chose ». Alors, c'est très important parce qu'ils voulaient avertir justement vers quelle direction cette croyance-là que tu perds, si tu abandonnes l'inhérence, vers où ça va te mener. Alors, avertir le peuple, danger, OK. Ce même motif présida l'organisation du congrès sur l'inspiration et l'autorité de la Bible tenu à Paris en 1985. Il est cependant à craindre que nos milieux aient été si largement affectés par le néo-évangélisme que de nombreux enfants de Dieu ne sachent plus distinguer cette erreur de la foi transmise aux saints une fois pour toutes. Alors, l'inhérence est d'une importance capitale et si on l'abandonne, c'est sûr que ça va avoir des conséquences graves. Alors, ceci pourrait expliquer le fait que le Congrès de Paris ait invité un néo-évangélique bien connu comme l'un de ses principaux orateurs. Imaginez-vous, ils font un congrès sur l'autorité et l'inhérence, puis ils invitent un libéral comme conférencier. On pourrait dire, c'est pas fort, comme on dit. Alors, cette invasion néo-évangélique pourrait aussi expliquer pourquoi certains milieux que nous connaissons fort bien refusent toute condamnation d'une des expressions les plus évidentes du néo-évangélisme, la croyance en une création progressive. Dans le livre d'Osée, chapitre 7, verset 9, nous disons qu'Israël avait vieilli et perdu sa force sans même s'en rendre compte. Ses milieux, tout en s'affirmant évangéliques, sont devenus néo-évangéliques sans même le savoir. Alors, la création progressive, une affaire. Deuxième affaire, tu lâches l'inhérence. Et tout ça, on va voir que ça va aller beaucoup plus loin. Et on voit que ça a commencé dans les années 48, et on est rendu en 1918-85, ces conférences-là, qui ont pour but de... Alors, le mal a eu le temps de faire son effet avant que les chrétiens conservateurs réagissent et disent « Oh, maintenant, il faut regarder où on s'en va, tout ça. » Et ils se réunissent, prennent une position, tout ça prend un temps fou. Mais on voit que dans 40 ans, il y a des idées qui sont avancés, qui sont infiltrés dans les églises, et c'est très, très répandu. Comme il dit, on sait, les églises se sont laissées infiltrer, et ils s'en sont même pas rendus compte comme de quoi ils s'étaient affaiblis sur plusieurs points. Et tout ça, bien sûr, ça se reflète dans les livres qui sortent. Alors, quelqu'un va dans une librairie, qu'on dit chrétienne, il y a beaucoup de bonnes choses là-dedans, mais il y a aussi beaucoup de choses dangereuses qui peuvent t'emmener dans des mauvaises voies. Alors, on peut constater que les problèmes et erreurs qui sont très graves du néo-évangélisme sont nombreuses. Alors, on en a lu quelques-uns, mais là, on va les reprendre une par une. Ça nous donne une idée. Alors, l'autorité de la Bible. Deuxièmement, la dilution des grandes vérités évangéliques. Parce qu'on parle... on a nommé des choses tantôt. L'opposition aux affiliations dénominationnelles. Alors, pour eux, souvent, ça se reflète même dans le nom qu'ils donnent à l'Église. C'est jamais baptiste ou... C'est toujours un peu diffus. Alors, l'opposition aux affiliations dénominationnelles. Son identification avec le dispensationalisme. Alors, encore là, on pourrait en parler très longtemps. Cinquième chose... une position de compromis sur le créationnisme et les nouveaux rapports de la Bible avec la science. Sixièmement, un grand accent sur l'Évangile et l'éthique sociale. Alors, l'Évangile social, c'est autrement dit, sont en train de promouvoir l'idée que c'est aux chrétiens de régler les grands problèmes du monde. Pauvreté, chômage, tout ce que tu voudras, nommez-les, là. C'est à nous de changer ça, selon eux. Ensuite, leur prise de position boiteuse sur l'autorité et l'inhérence de la Bible. Huitièmement, le dialogue avec les libéraux et les néo-orthodoxes. Et quand on regarde avec du recul l'ensemble de ces choses-là, de dialogue avec les libéraux et les néo-orthodoxes, ça se termine invariablement par du compromis. Alors, il y a vraiment un danger à l'intérieur. Et... le docteur Elliott n'hésite pas à parler d'un grand danger et d'un état de sommeil des églises. Alors, c'est comme rentrer tranquillement, ça s'est fait graduellement, et aujourd'hui... Alors, docteur Elliott, c'est pas un deux de pique quand même, et lui affirme que les églises se sont laissées, sont en grand danger, et ils dorment, autrement dit. Alors, on va regarder un petit peu le numéro un, qu'est-ce qu'on regardait, le néo-évangélique, qui sont-ils? Alors, il faut d'abord prendre conscience que c'est un mouvement. Ce n'est pas une dénomination, c'est un mouvement. C'est une façon de penser, un état, une façon de réfléchir à qui on se devrait être comme chrétien. Alors, un mouvement implique un déplacement, une orientation et un but. Quand on parle de quelque chose qui est en mouvance, bien entendu, on parle d'une orientation, on parle d'un but, on parle de quelque chose qui se déplace. Alors, le mot chrétien est ici... utilisé dans un sens très large, interdénominationnel. Il est organisé et il a connu ses débuts des années 40. Alors, il faut savoir que le néo-évangélisme, c'est quelque chose de relativement nouveau. On a parlé tout à l'heure de 1948, alors des années 40. Il est né du désir d'adopter une nouvelle stratégie face au monde. Alors, au lieu de vouloir te séparer, tu veux les infiltrer pour les changer de l'intérieur. Ensuite, l'infiltration, le dialogue par opposition à la doctrine biblique de la séparation. Alors, par l'infiltration et le dialogue. Deuxièmement, la volonté de conquérir les vaincre par la raison. Tu vois des libéraux, tu vois qu'ils font des erreurs, tu dis « Ah, ben là, on n'est pas pour se séparer d'eux autres, on va plutôt les infiltrer, on va discuter avec eux autres, on va être capable d'échanger avec la raison. » C'est pour ça que la Bible nous enseigne. La Bible nous dit « Séparez-vous. » Alors, il faut vraiment... Parce que si on commence des choses comme ça, on ne se rend pas compte, mais ça nous emmène plus loin. Et, autrement dit, l'accent très fort de mise sur l'action sociale, vouloir changer le monde et ses problèmes. Il est aussi né du désir de s'unir sur de nouvelles bases en mettant l'accent sur l'amour et la tolérance. Il est né du désir d'accorder moins d'importance à la doctrine. Voyez-vous? Je ne sais pas si vous le voyez, le danger. Mais quand tu commences à vouloir t'unir juste sur la base de l'amour et de la tolérance, et que tu dis, bon, let's drop the doctrine, parce que la doctrine divise. C'est vrai qu'elle divise, la doctrine. Bien sûr qu'elle divise. Mais il faut qu'elle divise aussi. Alors, c'est un mouvement chrétien. On vient de définir un petit peu ce que c'était. Maintenant, ses fondateurs, les personnes qui ont été vraiment des acteurs importants dans le développement de tout ça, je n'ai nommé trois, là. C'est les plus connus. Alors, il y a Harold John Okenga, il y a Billy Graham, qui était un baptiste, et Donald Gray Barnhouse, un presbytérien. Je me souviens que mon professeur venait d'un milieu presbytérien, mon directeur d'école biblique venait d'un milieu presbytérien, et Donald Gray Barnhouse écrit des excellents commentaires. Et Barnhouse, quand il a embarqué dans le mouvement, il a lâché le fondamentalisme, puis il a embarqué avec les néo-évangéliques, apparemment que quand il a annoncé ça à radio, là, les vieux presbytériens qui l'aimaient beaucoup, là, ils pleuraient. Ils voyaient que le docteur avait comme pris une tendance dangereuse. Et Donald Gray Barnhouse est devenu un promoteur de cet état d'esprit-là, avec toutes ces valeurs-là. Alors, maintenant, son porte-parole. Celui que le mouvement néo-évangélique a le plus utilisé, bien sûr, Billy Graham, parce que Billy Graham, il avait un auditoire connu, il avait un gros ministère, il avait de l'argent, en tout cas, c'est un de ceux qui ont utilisé le plus. Maintenant, tout ça, pour que ça fonctionne, ça prend un système de communication. Ces gens-là ont besoin d'un organe pour se parler, pour communiquer, et ce fameux système de communication-là, ça s'est concrétisé, matérialisé avec deux magazines. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, Christianity Today, aux États-Unis, c'est un magazine, un tirage, je ne sais pas combien, mais c'est un très, très, très fort tirage, distribué tout partout, dans les églises, un petit peu partout. Christianity Today a été beaucoup utilisé pour promouvoir l'ensemble des idées qu'on vient de nommer. Et il y en a un autre qui était surtout du côté des frères, Moody Monthly. Alors ça, c'est un autre grand magazine chrétien qui ont beaucoup contribué. Alors, le système de communication, ils communiquèrent abondamment au moyen de la télévision, de la radio, des vidéos, des livres, de la musique et du web. Alors c'est vraiment, ils ont un gros système de communication. Alors c'est par ça que tu influences les gens. Alors si... Et maintenant, bien entendu, il n'y a pas juste ça, ça te prend un système d'éducation. Et c'est ce qu'ils ont réalisé avec des séminaires et des écoles bibliques pour répandre leurs idées. Alors, quand on regarde les écoles bibliques aux États-Unis, Wheaton College, ça a toujours été considéré, je pense que Okenga est allé là-dedans. Après ça, tu as Fuller Theological Seminary, ça aussi, ça s'en va, ça dérape un peu vers le libéralisme. Et Dallas Theological Seminary. Combien de pasteurs québécois sont allés chercher leur formation à Dallas Theological Seminary? Ils sont revenus dispensationalistes parce que Dallas Theological Seminary, c'était un gros, une grosse école biblique qui ont promu ces idées-là. Alors, le mouvement aussi a contribué à créer des écoles chrétiennes pour jeunes, à distribuer du matériel de homeschooling et d'école du dimanche. Quand on regarde tout ce qu'ils ont développé, c'est sûr que si tu fais tout rentrer ça dans les églises, tu vas finir par influencer les gens, là, et de beaucoup. Maintenant, ils ont aussi un système associatif. Autrement dit, ça a créé des associations. Alors, le mouvement travaillait fort pour s'établir nationalement aux États-Unis et aussi internationalement. Alors, on disait que c'est pas le néo-évangélisme, c'est pas juste en Amérique du Nord. C'est un petit peu international. Mais si tu veux être international, ça te prend des associations. Un peu comme nous autres, on a une association, mais eux aussi ont des associations qui parfois comprennent des milliers d'églises qui participent à ça. Alors, il y avait aux États-Unis le National Association of Evangelicals, la NAE, puis au niveau mondial, la World Evangelical Fellowship, WEF, le National Council of Churches, le NCC, puis le World Council of Churches, la WCC. Alors, on va voir, quand on va voir la leçon sur l'écuménisme, on va voir que ces mouvements-là contribuent aussi à faire avancer une autre idée qui n'est pas celle du New Evangelist, c'est vraiment celle de l'union de toutes les grandes religions du monde. Alors, autrement dit, aussi, ils ont développé des organisations qu'on appelle para-ecclésiastiques. Campus for Christ, Youth for Christ, des camps chrétiens, les Gédéons, l'évangélisation des enfants, les œuvres charitables et sociales telles que l'Armée du Salut, etc. Ici, on pourrait faire une leçon qui pourrait durer un mois si on voudrait étudier tout le grand mouvement de ce qu'on appelle les organisations para-ecclésiastiques. Ça se compte par centaines aux États-Unis. Est-ce que ces associations ecclésiastiques-là sont pas venues gruger sur les responsabilités des églises locales? Beaucoup de choses dont ils s'occupent, ça devrait être fait par les églises locales. Et ils ont développé aussi, par exemple, ils vont faire le repas du Seigneur à l'intérieur de leurs affaires, alors que le repas du Seigneur, c'est supposé de se faire dans l'église locale. Alors, tout ça, là, ça contribue à faire déraper la foi chrétienne. Maintenant, ils ont bien sûr développé un réseau de leaders. Tout à l'heure, on avait nommé trois, mais avec le temps, tout ça s'est développé aussi des leaders influents. Alors, dans le domaine de l'évangélisation, Louis Paulo, je ne sais pas si vous avez déjà vu son nom quelque part, mais si vous prenez des revues ou qui vendent des livres chrétiens, vous allez voir que son nom apparaît continuellement. Billy Graham, Layton Ford, c'était le beau-frère de Billy Graham, Jimmy Baker, vous avez sûrement entendu parler du scandale de Jim Baker dans le temps, Jimmy Swaggart, la même chose, Oral Roberts, lui c'était vraiment la question des guérisons et toutes ces affaires-là, Jack Venipi, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de Jack Venipi, il est encore là, et lui, à cette heure, il fonctionne avec le pape comme ça, là. Il est vraiment, pour lui, le pape, c'est le plus grand héros de... Ah oui. TBN, je vous en ai déjà parlé, c'est Trinity Broadcasting Network. Aux États-Unis, dans le monde entier, c'est un réseau immense de radio et de télévision, peut-être sur Internet aussi, mais en tout cas, au moins radio-télévision, certains. Et si tu es en Ontario ou aux États-Unis, tout le monde prend TBN. Ou si tu ne pognes pas TBN, tu vas pogner l'autre qui s'appelle CBN. Et le 700 Club de Pat Robertson. Pat Robertson, c'est encore dans le néo-évangélisme, mais ça s'en va plutôt vers le charismatisme. Bill Bright, Hal Lindsey. Alors, tous ces bonhommes-là, c'est tous des grands communicateurs, c'est tous des bonhommes qui ont des postes influents, que leurs œuvres sont distribuées à grande échelle, et ont des réseaux locaux un petit peu partout, des grosses églises souvent. Alors, tout ce monde-là travaille ensemble avec l'ensemble de ces idées-là. Alors, il faut voir l'importance, la force de tout ça. Dans le domaine de la littérature, ils ont développé aussi des personnes qui les ont aidés à développer leurs idées. Charles Swindoll, Dr. James Dobson, etc. Maintenant, on va regarder les néo-évangéliques, la deuxième question, qu'est-ce qu'ils pensent? Alors, dans notre article d'ouverture, on avait mentionné l'affirmation du Dr. Stuart Olliott que le néo-évangélisme est un état d'esprit. Examinons un peu en quoi consiste cet état d'esprit. Alors, ils avaient nommé un peu tantôt une stratégie d'infiltration. Leur conviction sont qu'il faut utiliser le dialogue avec les intellectuels, les libéraux et les penseurs de ce monde pour tenter de les convertir par la raison. et de promouvoir un évangile social et une transformation éthique de la société. Est-ce que la Bible nous parle qu'on peut convertir quelqu'un avec la raison?
Non.
Bon, c'est le Saint-Esprit qui fait le travail, c'est le Saint-Esprit qui régénère. Alors, automatiquement, c'est une fausse avenue. Quand tu t'en vas dans cette avenue-là, tu te trompes dès le départ. Après ça, tu as une volonté de s'unir. On va voir que le rôle que les néo-évangéliques jouent dans l'écuménisme, on va voir qu'on regardera ça là. Alors, selon eux, pour arriver à l'unité, il faut abaisser les barrières dénominationnelles, travailler ensemble en oubliant la doctrine. Il faut, selon eux, adopter une nouvelle ouverture d'esprit et mettre l'emphase sur l'amour et refuser de faire du prosélytisme. Par exemple, refuser de sortir quelqu'un du catholicisme et chercher l'inclusivisme. Donc, l'inclusivisme, c'est la valeur égale, selon eux, de toutes les religions. Alors, le prosélytisme, je me souviens d'avoir lu des articles sur Billy Graham. Quand Billy Graham a commencé à faire des campagnes d'évangélisation aux États-Unis, les catholiques ne voulaient pas participer à ça. À un moment donné, ils ont rencontré des évêques, ils ont rencontré des cardinaux. Et là, eux autres, ce qui les intéressait de savoir s'ils étaient pour travailler ou collaborer avec Billy Graham, c'était sa position sur la justification. Je ne sais pas si vous voyez le noyau est là. Alors, puis quand il a donné une position qui était un petit peu vague, l'Église catholique a décidé d'embarquer dans les campagnes d'évangélisation de Billy Graham aux États-Unis. Et quand il faisait une campagne d'évangélisation, il y avait des gens qui répondaient à l'appel de conversion, ils descendaient en bas. Puis quand ils demandaient à la personne, ils disaient de quelle dénomination avant, s'ils disaient catholique, ils le retournaient dans l'Église catholique. Alors c'est ce qu'on appelle refuser de faire du prosélytisme. Autre prosélytisme, c'est de faire un nouveau converti, le faire sortir d'une dénomination pour l'emmener dans ce que tu crois être la vérité. Eux, ils ont dit non, on ne boit plus avec ça. Alors, je ne sais pas si vous voyez le danger vers où ça mène. Et après ça, de promouvoir l'inclusivisme. Alors, quand tu fais une promotion de l'inclusivisme, tu dis, ah, ben que tu sois bouddhiste, que tu sois, comment ils appellent le Coran, là, que tu sois l'islamiste, que tu sois catholique, que tu sois protestant, dans le fond, il y a un seul Dieu, on devrait tous s'unir sur la base de notre foi en un seul Dieu, etc. Alors, ça te mène vers la grande religion mondiale qui est décrit que la grande prostituée va finir par vouloir faire ça. Alors, la stratégie d'infiltration, la volonté de s'unir à tout prix, et le désir de se moderniser. Selon eux, il faut établir des dialogues avec les communistes et les grandes religions du monde. Il faut moderniser la pensée et la pratique chrétienne. Dans le domaine de la pensée, il faut développer des attitudes de tolérance et éviter de dénoncer des erreurs et des hérésies. Dans le domaine de la pratique, il faut accepter ou tolérer des pratiques antibibliques comme l'homosexualité, l'avortement, la psychologie, le travail, le jour du Seigneur, le féminisme, la mollesse dans l'éducation des enfants, le rock chrétien, etc. Alors, c'est vraiment l'idée que faut plus que tu dénonces, faut que tu sois tolérant, puis faut que tu regardes autour de toi, puis tu dis, bon, non, c'est ça. Alors, le désir de se moderniser, qui n'est pas nécessairement mauvais en soi, mais ça dépend comment tu le fais. Le désir de collaborer. Alors, l'idée de collaborer avec tous est fortement encouragée. Avec les catholiques, l'interdénominationnisme. Alors, autrement dit, on s'en va avec les autres dénominations, puis on collabore. La différence entre assister à quelque chose qui s'est passé et collaborer. Les psychologues chrétiens, les communistes et même les hérétiques déclarés. Alors, aussi, une position très douteuse sur l'inhérence de la Bible, on l'a vu. Les églises et individus qui abandonnent la doctrine de l'inhérence des Saintes Écritures se dirigent tout droit vers une multitude d'erreurs et d'hérésies doctrinales. Et, dernière caractéristique, un fort accent sur les doctrines et pratiques mondaines. Alors, plusieurs de leurs églises axent leur culte sur le divertissement, qui deviennent en quelque sorte des spectacles, chants et musiques mondaines, guérisons spectaculaires, méthodes d'évangélisation anthropocentriques. Autrement dit, c'est vraiment par la manipulation, par la musique, par l'atmosphère que tu penses que tu vas amener les gens au Seigneur. Alors, tout ça. Et le troisième point, les néo-évangéliques, que cherchent-ils? Premièrement, ils cherchent à changer le monde par des méthodes humaines. Ils veulent utiliser la politique pour changer le monde. Les structures, les institutions, la lutte contre la pauvreté, les inégalités sociales, le racisme, etc. Ils sont en général arméniens de doctrine, voyez-vous, hop, un autre problème, et de l'évangélisation avec des techniques de marketing, et ce que les anglophones appellent « easy believism » ou « régénération décisionnelle ». Et ça, aujourd'hui, ça, c'est vraiment là, répandu, si vous regardez les États-Unis, à part du milieu réformé baptiste, là, peut-être d'autres, certaines autres, les presbytériens très conservateurs, c'est très répandu. Autrement dit, tu fais une campagne d'évangélisation, tu invites les gens à descendre. C'est vraiment, c'est toi qui prends la décision. Decision for Christ. Tu décides pour Christ. Il t'invite à ça. Il pousse les gens à faire ça. Alors, la régénération n'est plus l'œuvre du Saint-Esprit. Elle est l'œuvre des hommes. Et c'est très dangereux de t'en aller dans cette direction-là. Parce qu'après ça, les gens qui sont non convertis se ramassent dans les églises. Et les pasteurs qui ont cette conviction-là ne les reconnaissent comme étant des chrétiens, même s'ils mènent des vies tout croches, qui n'obéissent pas au sens des Écritures. Alors, c'est tout ça, il y a eu beaucoup d'angles qui ont été écrits au cours des dernières années sur ces affaires-là, le « easy believism » ou les techniques de marketing pour faire de l'évangélisation. Alors, à ce moment-là, c'est pas de prêcher l'Évangile puis de laisser faire l'Esprit, c'est de considérer vraiment comme une technique de marketing. Tu as un marché, combien d'églises sont dans telle église, quel âge qu'ils ont, tu vas varier ton approche dépendamment de leur âge, dépendamment de la... Et tout ça, là. Je me souviens d'avoir lu un livre là-dessus où il parlait d'évangélisation avec des techniques de marketing comme ça. Et moi, mon idée, là, qu'après que ça a été prendre mon livre, j'avais juste une idée de le mettre dans la filière 13. Parce que c'est pas ça que la Bible nous enseigne. Alors, ils cherchent aussi à convertir le monde. Leur évangélisation tourne souvent autour de tactiques de manipulation psychologique et émotive. Ils vont s'allier avec les catholiques et toutes les grandes religions du monde. Beaucoup d'entre eux font la promotion de la paternité universelle de Dieu. Vous, là, ça va vraiment vers la grande religion mondiale. L'utilisation de la philosophie du Nouvel Âge et des philosophies humaines. Alors, l'écuménisme est aussi fortement encouragé. Là, on voit que c'est un mouvement qui va contribuer à faire grandir un autre mouvement qui est celui de la grande Babylone de la fin des temps. Alors, quelles sont les applications qu'on peut faire à partir du texte d'aujourd'hui? Comment les réformés baptistes doivent-ils réagir face à ce mouvement dangereux? Premièrement, par l'attachement à l'autorité et à l'inhérence des Saintes Écritures. Deuxièmement, par la prière et la demande de sagesse à Dieu. Troisièmement, par le militantisme et la dénonciation de leurs erreurs et leur déviation doctrinale. Quatrièmement, par la pratique de la séparation ecclésiastique biblique. Cinquièmement, par l'évangélisation biblique, élection, rédemption particulière, souveraineté de Dieu, régénération par la grâce. Sixièmement, par l'enseignement de tous les chrétiens et les saints avertissements. Et septièmement, par la grâce de Dieu, persévérer dans la vigilance, le courage, la souffrance, la veille, la vie sainte, la mise en pratique de la Bible, etc. Que notre grand et glorieux Seigneur nous donne la sagesse, du discernement et du courage. Amen.